Dans l'exploration des caractéristiques, nous avons vu la souffrance ce matin. J'aimerais aborder la deuxième des caractéristiques, qui est l'impermanence, et aussi essayer de comprendre, dans le fond, pourquoi on ne l'aperçoit pas nécessairement de manière si simple, si c'est vraiment une des caractéristiques de l'existence. C'est certainement la plus évidente. Maintenant, quand on parle d'impermanence dans le bouddhisme, on a quelque chose en tête qui est très précis. Ce n'est pas que quelque chose existe pendant un certain laps de temps et tout d'un coup cesse, c'est quelque chose qui change d'instant en instant, dans un rythme extrêmement rapide. Donc pour le bouddhisme, tout change d'instant en instant. Tout. Une instantanéité, non pas quelque chose qui dure et qui cesse. Donc on peut prendre conscience du changement, de l'impermanence à différents niveaux. Dans une journée, dans la salle de méditation, on voit bien qu'il y a une lumière différente selon la journée du jour, l'heure du jour. Il y a les saisons. Évidemment, il y a la vie avec les différentes phases de la vie. Quelquefois, on voit ce changement manifeste dans l'observation des enfants, des petits-enfants. Ça change tellement vite, on voit bien il y a de l'impermanence, il y a un changement. Mais ici, ce qu'on essaie de faire dans la pratique méditative pour que ceci ait un impact au niveau de la caractéristique, pour que ceci soit libérateur, c'est de percevoir cette impermanence à un niveau beaucoup plus subtil, on pourrait dire, dans ce changement d'instant en instant. Comme je le dis, c'est la chose la plus évidente. Tous les philosophes de l'Antiquité et autres ont déjà parlé de ceci, donc c'est pas quelque chose qui surprend au point de vue, en tout cas théorique, si on parle du fait que tout change d'instant en instant. Néanmoins, nous vivons comme si les choses étaient stables. Il y a une sorte de déphasage entre ce qu'on pourrait connaître ou penser de la réalité et la manière dont instinctivement on se conduit. Pour essayer de comprendre comment dans la méditation on peut aborder ceci et qu'est-ce qui voile aussi cette perception de ce changement constant, on va faire une différence qui est fondamentale dans la méditation, c'est la différence entre connaître et être conscient. Donc la connaissance et la conscience, quelque chose d'essentiel, cette distinction, et souvent on ne la fait pas, à ce moment-là on a de la peine à comprendre ce dont il s'agit dans la méditation, et on ramène tout, toujours, à de la connaissance sans rester au niveau de la conscience. Conscience dans le sens d'être conscient de, prise de conscience, conscient d'une sensation, conscient d'un son. Donc connaissance est quelque chose, dans le fond, qui est essentiel dans notre vie, et nous sommes formés très, très rapidement. Les tout petits enfants, on leur apprend à nommer les choses, donc c'est une grande partie de l'éducation, dans cette patience immense qu'ont les parents et l'entourage d'apprendre à un petit enfant à nommer, un jeu assez d'ailleurs intéressant il semble, en voyant le contentement des parents et des enfants quand ils arrivent à nommer juste les choses, avec quand même une inventivité extraordinaire, parce que quand on imagine l'image d'un cheval sur un de ces petits cahiers, c'est quand même assez loin d'un cheval en réalité, mais qu'on arrive à faire le lien, il y a quand même une sorte de capacité à l'abstraction extraordinaire. Donc le fait de nommer, c'est pour arriver donc à connaître. Plus on arrive à nommer une chose, donc une grande partie de l'acquisition pour nous de la connaissance, c'est le fait de nommer de manière juste. On peut se promener avec des spécialistes de la botanique, on se promène dans une forêt, et puis tout d'un coup, ils vous donnent le nom de plein de plantes, des noms que vous ne connaissiez pas, vous n'avez jamais entendu. Mais enfin, cette personne a beaucoup de connaissances dans la botanique ou dans tout autre domaine. Donc la connaissance, c'est quelque chose qui peut se garder, qui peut s'accumuler. On peut en remplir des encyclopédies. Imaginez en combien de volumes immenses. Donc tout ceci est on peut le garder, on peut le transmettre, on peut le communiquer. Et par la suite, après avoir appris à nommer tellement de choses, à les différencier, on ne les nomme pas simplement, mais après, on peut savoir si c'est plus grand, plus petit, ce qui va ensemble, ce qui s'oppose. On organise tout ceci avec autant aussi de concepts qui font qu'on élabore encore cette connaissance de manière plus vaste. Et dans l'éducation, finalement, on va plus apprendre simplement à nommer, mais on va apprendre aussi des techniques, des moyens, des savoir-faire, mais ceci, c'est toujours de l'ordre de la connaissance. Donc on peut dire que notre fonctionnement dépend complètement de la connaissance. Mais qu'est-ce que c'est, dans le fond, que connaître? Qu'est-ce que c'est que cette connaissance? Bien, la connaissance, c'est dans le fond la transposition d'une expérience, d'un vécu, en quelque chose qui soit justement, qu'on peut garder, qu'on peut conserver. Un vécu, le vécu lui-même, on ne peut pas le garder. Imaginez la vision des montagnes, ce matin ou à midi, où il y avait un éclairage très particulier, ben, on ne peut pas garder cette vision, on ne peut pas la garder. On peut prendre une photo, si vous voulez, on peut en avoir une image dans la mémoire, mais ce n'est pas la perception. L'image elle-même, la perception, elle est là, elle dépend complètement de la situation, du moment, de la montagne, de ma capacité visuelle. Et puis, comme la lumière change assez rapidement, eh bien, je ne peux pas garder la perception. Toute expérience sensorielle ne peut être gardée. Ce qu'on garde, c'est une représentation. Pas l'expérience elle-même. Autrement, on pourrait arrêter le temps, dire ouais, midi, ça me va bien, non. Tout petit peu après, c'est un peu plus varié, voilà, j'arrête. On ne peut pas garder, c'est impossible. Donc, toute expérience, tout vécu, on le transforme en quelque chose qu'on puisse garder, qu'on puisse transmettre. Le processus de connaissance est une transposition d'un vécu en une généralité. On interprète immédiatement un vécu, on l'interprète pour le comprendre, pour pouvoir en faire quelque chose, et c'est utile. C'est pas une aberration. Si on traverse la rue dans une ville et qu'on entend un bruit fort, c'est bien de pouvoir comprendre que ce bruit-là, il désigne un camion. Et à la vitesse d'ailleurs à laquelle il change, un camion qui arrive rapidement. Mais quelle est l'expérience? Le vécu lui-même, il est l'audition d'un son. On entend un son, mais il y a tout de suite cette connaissance, cette interprétation de ce vécu-là, vécu d'un son, même qui change rapidement, et la connaissance, c'est j'entends un camion. Ou une moto, à force de faire bien du bruit aussi. Donc on interprète constamment les choses pour pouvoir gérer la vie, pour pouvoir la transformer, pour agir sur elle. Cette connaissance est quelque chose de fondamental, mais il y a toujours cette transposition entre un vécu et puis le sens qu'on lui donne. Le sens qui est juste. Mais vous voyez, puisque c'est une transposition, on peut se tromper parfois. S'il n'y avait pas de transposition, on ne peut pas se tromper. Ne peut pas regarder les montagnes, être là sans réfléchir et autres, et puis ne pas voir, ce serait quand même un peu compliqué, ou alors j'ai des graves problèmes. Mais si quand on est dans la perception, ben le vécu, il est ce qu'il est, parce qu'il n'est pas transposé. Dès qu'on le transpose, je pourrais donner un faux nom à ces montagnes. Je dirais, voilà, quelqu'un au téléphone qu'on n'est pas supposé faire, mais voilà, ben je suis en train de voir le Cervin. Je me suis trompé, là, c'est pas le Cervin. Donc on peut transposer. Je pourrais voir une personne qui vient au loin, je lui dis, tiens, voilà, et ben, pas, c'est oui, un clair qui arrive au loin, et puis la personne s'approche, ah, je me suis trompé. Vous voyez, la connaissance que j'ai tirée de cette perception, c'est clair qui arrive, et puis je me trompe pas, je voyais bien quelqu'un, ceci pourrait être une erreur, j'aurais pu peut-être voir une sorte de poteau et croire que c'est quelqu'un, mais enfin, il y avait bien une perception visuelle, et l'interprétation de dire c'est ceci, c'est cela. Elle a une marge d'erreur puisque justement c'est une transposition. Donc immédiatement, lorsque surgit une expérience, on la transpose dans quelque chose que l'on peut garder, que l'on peut répertorier, que l'on peut utiliser. Mais le vécu lui-même, hein, il est bien différent. Si vous entrez dans la salle ici de méditation, à chaque pas, votre vision de la salle est différente. Chaque pas, c'est différent, et pourtant, on se promène dans la même salle de méditation. C'est quoi cette même salle de méditation? C'est un concept qu'on a mis, on entre, on a reconnu, on a tout de suite mis salle de méditation, on n'a pas besoin de le nommer, c'est la salle de méditation, ça vient automatiquement. Et puis à ce moment-là, on se déplace non plus dans ce qu'on voit, mais dans ce qu'on pense. On se déplace dans la salle de méditation. La vision a perdu de sa capacité d'informer ou d'être un vécu, on se déplace dans ce qu'on pense. Donc notre perception, finalement, elle est constamment court-circuitée, visuelle, auditive, etc., par ce qu'on pense. Et on perçoit plus ce qu'on pense que ce qu'on perçoit réellement. Dans la méditation, je vous ai posé une deux questions. Il se pourrait très bien que je sois assis en méditation avec une vague image de mon corps dans la salle de méditation. Mais elle est où cette image du corps puisque j'ai les yeux fermés, imaginaires? La salle de méditation, quelle est son existence quand j'ai les yeux fermés? Je ne la vois pas. N'y a pas des animaux avec une perception olfactive qui diraient, oh là, je sens que c'est la salle de méditation. En plus, il faudrait qu'elle soit différemment que des autres salles. Donc, on est ici, vous voyez, on inscrit notre pratique tout d'un coup dans quelque chose qui est pensé, l'image du corps, imaginez, l'image du corps dans la salle de méditation. Des choses stables qui ne bougent pas. Ça ne bouge pas pendant toute l'assise. Et on essaye d'être dans le vécu lui-même alors qu'on s'accroche déjà à un cadre complètement solide, stable, qui est imaginaire, dont on n'est même pas conscient. On n'est même pas conscient qu'on garde l'image de la salle de méditation et l'image du corps dans la position assise. À nouveau, ça ne veut pas dire qu'on a une image très claire du corps dans sa position assise, mais elle est quand même là. Et après, on essaye d'être présent à chaque instant avec ce qui se passe, alors qu'on a déjà figé complètement le cadre, qu'on est complètement accaparé par ce qu'on saisit ici, comme étant de l'ordre de la connaissance, et il reste plus de disponibilité pour être vraiment dans le vécu. Donc la connaissance, elle est, évidemment, c'est fondamental, c'est essentiel, mais c'est très différent que d'être conscient de quelque chose. La conscience de quelque chose, donc le vécu, est justement cette expérience avant qu'elle soit transposée, l'expérience non transposée en concept, qui n'a pas basculé dans la connaissance. Elle a quelque chose qui n'est justement pas saisissable, qui est dans l'instant, qui est de l'ordre du vécu. Donc un aspect important, peut-être que j'y reviendrai, sur le concept, c'est que le concept, lui, il est stable. La salle de méditation, c'est quelque chose qui ne change pas, même si on restait longtemps assis ici et que la lumière change, voilà, ça deviendrait sombre, etc. Mais le concept salle de méditation ne change pas. Le concept de l'assise ne change pas. C'est pas un défaut du concept de ne pas changer. C'est au contraire, c'est justement ce qu'en fait sa richesse. La richesse, c'est que le concept ne change pas, qu'il puisse être utile. Mais le problème, c'est que quand tout d'un coup, dans notre vécu ou dans notre expérience, il se substitue au vécu, finalement, on est constamment dans l'imagination ou dans la représentation de vécu, et ces représentations du vécu se substituent au vécu. On ne vit plus, on pense. On pense la salle de méditation, on peut penser son assise, même sans réfléchir, on n'a pas besoin de penser à demain, de vraiment élaborer des choses pour que on pourrait très bien être tranquille, calme, sans avoir beaucoup de pensées, être complètement figé dans l'image du corps et l'image de la salle de méditation. Subtil, etc. Voilà, c'est très stable. Et on n'est pas du tout dans un vécu. On est dans un vécu imaginaire, qui est l'image de la salle de méditation, l'image du corps. Le problème, c'est qu'on ne se rend même pas compte qu'on est dans cet imaginaire. Et tout d'un coup, la méditation, eh bien, elle est peu nourrissante. On n'a pas l'impression d'être vraiment, qu'on touche cette qualité de vie que devrait signifier la méditation. Voilà, on peut se demander, dans le fond, à quoi ça sert. Un moment que je suis là, tranquille, sans qu'il y ait des pensées, beaucoup de pensées, mais voilà. Où est l'enrichissement? Il n'y a pas d'enrichissement parce qu'on est dans la pensée du vécu, non pas dans le vécu. Donc, je voudrais aborder ceci encore de manière peut-être un peu plus précise, parce que c'est important. Du point de vue pratique, c'est même essentiel. Voyez, quand on dit que le bouddhisme est plus une science qu'une religion, on entend dire ça quelquefois. C'est une catastrophe. Parce que ce qu'on veut dire, finalement, c'est que le bouddhisme ne serait plus concerné par les concepts que par le vécu lui-même. Parce que la science a bonne presse depuis quelque temps, on croit que ça serait un critère de vérité que de dire que le bouddhisme serait une science. Mais la science s'intéresse justement à la connaissance, au concept. Tout le travail de la science, et c'est sa richesse, c'est d'arriver à mettre des concepts de plus en plus subtils sur certains processus pour que justement on puisse en déduire certaines choses, qu'on puisse l'utiliser. Voilà, c'est la richesse de la science, c'est son business. Enfin. Mais le bouddhisme est justement à l'opposé de ceci, puisque ce qui l'intéresse, c'est le vécu lui-même. Ce qui l'intéresse, c'est la condition existentielle de l'être humain, et non pas une théorie de la connaissance qui voudrait tout organiser. C'est de revenir, toute le bouddhisme et la méditation, et de revenir à l'expérience humaine avant qu'on essaie de la saisir dans le concept. Revenir au vécu lui-même. Et c'est ce qu'on entend dans les indications de la méditation, on revient toujours à ceci. Alors, quelle que soit la manière dont on essaie de l'exprimer pour le faire sentir, on revient toujours à ceci. Au vécu lui-même et non pas à l'interprétation, non pas à la représentation. Donc il y a dans chaque vécu quelque chose de singulier qui n'est comparable à rien. Le concept a comme caractéristique de devoir s'appliquer à beaucoup de choses différentes. Sinon, il serait inutile. J'ai parlé du terme cheval parce que ces petits dessins, quelquefois quand même assez loin d'un cheval, qu'on arrive à enseigner le nom du cheval aux enfants avec ça, c'est assez extraordinaire. Ben, même le terme cheval, si on imagine, il y a quand même des petits, des moyens, des grands, il y a toutes les couleurs. Donc ce terme-là, il s'applique à beaucoup d'animaux différents. Mais aussi un cheval qu'on verrait de trois quarts, depuis derrière, depuis devant, il y a mille manières. Donc le même terme, il doit arriver à s'appliquer à tout ceci de manière juste. Alors si on prend les chiens, là c'est encore différent, parce qu'évidemment les chiens, imaginez qu'il y ait le même nom pour des animaux aussi différents. Des tout petits animaux comme ça, des immenses animaux, et le terme peut s'appliquer. Donc c'est une généralisation. Si je parle de chien, est-ce que ça veut dire que ce chien il est noir ou est-ce qu'il est blanc? Quand je parle de chien, ça ne veut pas du tout dire qu'il a une couleur particulière. Parce que si ça voulait dire blanc, alors les chiens noirs, tout d'un coup, ils n'entreraient plus dans cette catégorie-là. Donc le terme lui-même, il est une généralisation, mais dans le fond, il reste de manière assez indéfinie. Il doit être indéfini pour s'appliquer à beaucoup de choses. Donc on est toujours dans des généralisations qui ne sont pas des vécus, qui sont des représentations. Alors que l'expérience singulière, elle, avant qu'elle soit mise en concept, elle est justement, elle a des particularités telles que ce ne serait pas possible, même si on voulait la définir, on pourrait écrire des pages et des pages, il manquerait toujours un aspect pour vraiment nous la rendre. Aucune description ne pourrait nous faire éprouver cette expérience-là, ça pourrait nous faire éprouver quelque chose de similaire. C'est l'art des poètes et des écrivains, quelque chose de similaire, mais non pas cette expérience spécifique. Donc on a bien ces deux niveaux de l'expérience, ce niveau du vécu existentiel avant qu'il soit mis en forme, avant qu'on en tire des généralités dans sa singularité à chaque instant, et ceci change d'instant en instant. Ce vécu singulier change d'instant en instant. L'interprétation, elle, je pourrais dire, voilà, je suis assis en méditation, ben je pourrais dire, voilà, je somnole, il y a de la somnolence, mais ça peut durer 10 minutes, 45 minutes. Cette somnolence-là, cette interprétation, ce concept, eh bien, il est stable, alors que dans le fond, l'expérience même de somnolence, à chaque instant, elle serait légèrement différente. Voilà, je suis agité, impatient. Mais ça aussi, cette généralisation, je suis impatient, tout le monde comprend. Mais il y a certainement mille manières d'être impatient, un tout petit peu, ou très impatient, de le sentir vraiment, je ne sais pas, dans différentes zones du corps, intensément, ou d'avoir des pensées, il faut que je fasse ci, au moins j'ai oublié de faire ci, etc. Donc c'est, si on reste dans notre méditation au niveau de généralisation, on n'est jamais dans un processus vivant. On est un petit peu comme une personne qui passerait ses vacances dans son salon à regarder des prospectus de vacances. Voilà. C'était chouette, là, le sud de l'Espagne. Maintenant, tiens, je vais faire un petit saut en Afrique. Mais c'est quand même pas la même chose que de voyager. Ou alors une personne qui irait au restaurant se contenterait de lire le menu. Voilà. Donc, au garçon, je peux avoir le menu. Ah, voilà, c'est bon, à la fin de la soirée, voilà, merci beaucoup, c'est excellent dans votre restaurant. Ça n'a pas de sens. Mais c'est ce qu'on fait dans la méditation quand on reste au niveau des représentations, des concepts. Comme je l'ai dit, enfin, du corps dans la position assise dans la salle de méditation. Représentation. Ce n'est pas la vision de la salle, ni la perception des sensations corporelles, par exemple, ou la présence du corps. Donc il y a cette distinction importante, connaissance, conscience de, généralité et singularité. La connaissance a toujours affaire à des généralités, elle est utile, c'est son rôle. Elle a conscience de quelque chose, conscience auditive, olfactive, corporelle. Elle a affaire à des singularités avant qu'ils soient représentés. Et ce qui empêche de faire l'expérience de l'impermanence, de quelque chose qui change d'instant en instant, c'est évidemment dans notre méditation, quand elle est structurée par une représentation. Vous avez mentionné, si je viens, j'ai l'impression que ça y est, je me suis assis, il y a quelque chose qui est terminé, je peux commencer à méditer, mais que dans le fond, cette image ou ce sens d'avoir cette assise qui est terminée, qui est là pour toute la durée, ceci est stable. Je ne vais pas pouvoir à ce moment-là découvrir cet aspect transitoire, éphémère des vécus. Dans la tradition bouddhique, on appelle réalité ultime ce qui est éprouvé. Pas dire connu ici, mais éprouvé dans sa singularité et qui n'est pas une généralité, donc par le concept ou la représentation. Ces deux, on parle de vérité ultime et conventionnelle. Vérité ultime, c'est singularité, ce qui est éprouvé réellement à chaque instant avant que ça soit saisi par un concept. Et vérité conventionnelle, c'est accès au monde, aux expériences, quand ceci est traduit dans un concept. Donc ces deux aspects, vérité ultime, vérité conventionnelle, sont importantes et elles jouent un rôle les deux. Il ne s'agit pas de nier, par exemple, la vérité au niveau des représentations. On en a besoin. On a besoin ici, par exemple, d'un horaire pour arriver à se rencontrer à peu près au même temps dans la salle de méditation. Donc les représentations sont importantes, mais quand il y a confusion, qu'on est dans la méditation en essayant d'approfondir quelque chose, et qu'on reste toujours au niveau des représentations, à ce moment-là, il n'y a pas d'approfondissement possible. Et Manasi Sayadaw, je le cite parce qu'il est très explicite, mais il est tout à fait en accord avec la tradition bouddhique, il dit « la méditation vipassana » se situe ou est concerné par l'ultime, pas par le conventionnel. Ça, c'est très clair. Ce que nous explorons dans le vipassana, c'est l'ultime et non pas le conventionnel, c'est-à-dire c'est le vécu dans sa singularité, à chaque instant lorsqu'il surgit, et non pas en tirer des généralités ou de s'attacher ou rester bloqué à des représentations dans la généralité. Et c'est intéressant parce qu'on trouve dans la pensée occidentale aussi cette cette notion, cette perception qu'il y a là une différence entre les généralités et puis la singularité de l'expérience. Cité ici Kierkegaard, qui disait que les vécus dans sa réalité concrète doit nous apparaître comme non-savoir, parce qu'il est irréductible au savoir. Dans sa réalité concrète, le vécu, il est non-savoir parce que il est pas saisissable, ou il est avant d'être saisi. Dès qu'on le saisit, on tombe dans quelque chose qui est de l'ordre de la représentation, de la stabilité. Ou Nietzsche qui disait le concept s'applique à beaucoup de choses un peu, mais à rien complètement. Et c'est exactement ce qu'est le concept, et c'est son boulot, c'est ce qu'il doit faire. Il doit pouvoir s'appliquer à beaucoup de choses, bah, à tous les chiens, comme je l'ai dit, pour qu'on puisse se comprendre, mais à rien totalement, c'est-à-dire le concept de chien ne peut pas définir un animal spécifique qu'on aurait là devant nous, dans un certain éclairage, dans une certaine position. Donc c'est pour cette raison-là que on décrit la pratique de la manière dont on la décrit, en essayant toujours de revenir à quelque chose du vécu lui-même. On pourrait parler quelquefois d'observer la respiration et autres comme processus de tranquillisation de l'esprit. C'est une sorte de préliminaire, mais quand on veut vraiment parler de vipassana, alors il s'agit de dépasser ceci. Maintenant, il y a des concepts. Ici, j'ai parlé de l'image du corps, qui est quelque chose évidemment d'important et de fréquent. Il y a un autre concept, généralisation, qui est très importante et qu'on dépasse aussi dans la méditation, c'est la notion de temporalité. On a l'impression que la temporalité, voilà, c'est quelque chose qui existe concrètement. Et ça me semble tellement éclairant pour la méditation, la notion de temporalité, et de se dégager de cette notion de temporalité. On ne peut pas méditer pendant une demi-heure, méditer pendant 45 minutes, méditer pendant une minute, on n'arrive pas. Et de questionner la temporalité, c'est quelque chose d'assez déroutant. On a l'impression que ça ne peut pas fonctionner si on questionne la temporalité. Heureusement, d'autres avant nous l'ont fait, d'ailleurs. J'aime bien citer saint Augustin parce qu'il est très explicite à ce propos. Saint Augustin, il dit, si on ne me demande pas ce qu'est le temps, je sais, il n'y a pas de problème. On ne me demande pas le temps, c'est clair. Mais dès qu'on me demande, alors là, je ne sais plus. Il dit, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Entre les deux, il n'y a rien qui puisse avoir une durée. Il dit, mon Dieu, aide-moi. Il en a perdu son latin. Et la science moderne aussi, contemporaine, nous enseigne que la temporalité n'est pas quelque chose. Einstein disait, le temps, ça n'existe pas. Mais maintenant, c'est des représentations. Au niveau conventionnel, comme on l'a dit avant, évidemment, c'est quelque chose de fondamental, de très utile. Vous allez à votre travail demain, et puis vous arrivez à 11h, puis on fait une remarque, vous dites, vous savez, le temps n'existe pas, voilà, c'est pas judicieux, c'est pas la bonne chose. Donc c'est quand même une représentation, mais le temps, c'est déjà une accumulation, dans le fond, d'instants. Si on parle ben voilà, on parle d'une demi-heure, ben c'est 30 minutes, c'est déjà quelque chose qui est une sorte de comme on avait les animaux qui englobaient, ou les chiens qui englobaient tous ces différents types d'animaux, eh bien, 30 minutes, ça englobe une quantité immense d'instants différents. Alors on peut dire, voilà, une assise d'une demi-heure, on comprend bien ce que ça veut dire, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a. Est-ce que cette assise d'une demi-heure, on l'a la première minute, on l'a la deuxième, on ne l'a jamais, réellement, dans l'expérience, dans le vécu. Et si je m'assieds et que voilà, j'ai une montre, je regarde constamment mon assise, et surtout avec les montres à cadran comme ceci, voilà, ben voilà, il me reste 10 minutes, il me reste 5 minutes, j'ai l'impression que j'ai parcouru une certaine distance dans ma méditation, voilà, et qu'il m'en reste encore une distance, voilà, ou bien il me reste encore un quart de cadran pour aller jusqu'à la fin. Mais ça, c'est une représentation. Vous voyez, ce quart de cadran qui resterait jusqu'à la fin de la méditation, il est où? Il est dans ma tête, enfin dans ma tête, dans ma représentation. Il n'est pas là dans la réalité, puisque cet instant d'après n'existe pas. C'est difficile à imaginer, mais l'instant d'après n'existe pas. S'il existe, c'est dans notre représentation, on anticipe. On a le droit, c'est bien, on a besoin même, mais comme expérience vécue, il n'existe pas. L'instant d'avant non plus. C'est pas moi qui invente, j'ai appelé Saint-Augustin, il est quand même, c'est une certaine notoriété. On pourrait appeler évidemment beaucoup d'autres personnes. Donc l'instant d'avant n'existe pas, l'instant d'après n'existe pas. Saint-Augustin dit, il n'y a pas d'espace entre. Le Dhammapada, donc un texte classique du bouddhisme, le Bouddha dit laisse le passé, laisse le futur, laisse le présent. Pourquoi ils disent laisse le présent? On dit, ben, vous voulez qu'il nous reste au moins quelque chose? Il dit laisse le présent. Pourquoi il enlève ça? Parce que simplement, la notion de temporalité, c'est juste une notion. Dans le vécu, dans ce vécu singulier, il n'y a pas de notion de temps, il n'y a même pas, on n'a pas besoin de rajouter c'est maintenant, etc. La méditation s'inscrit hors temporalité. Pourquoi? Parce qu'on n'amène pas ce cadre de référence, cadre utile à nouveau, mais là on n'en a pas besoin. Donc la méditation se déroule hors temporalité, simplement parce qu'on est dans chaque vécu sans élaborer. Sans élaborer avant, pendant, après, etc. Et dans la pratique, lorsque on sent qu'il y a un certain niveau d'intimité, de développement, on se rend bien compte qu'il y a ce dépassement de la notion de temporalité. Non pas parce qu'on la nie, mais parce qu'on la convoque plus. On n'est plus en train de constamment réorganiser l'expérience dans ce cadre de la temporalité. On a laissé tomber ce cadre. Donc il ne s'agit pas, dans notre pratique, de devenir compliqué. Même si parfois ce que je dis peut paraître compliqué, mais c'est toujours au contraire, une attitude de plus en plus grande simplicité. On ne s'attache pas à garder les expériences, à vouloir les nommer, etc. C'est vraiment dans une sorte de relâchement, dans la plus grande simplicité. C'est que nous sommes assez complexes dans le quotidien, à nouveau, c'est certainement une bonne chose. Mais que nous rencontrons dans notre pratique la complexité, cette complexité, et que tout d'un coup, elle devient encombrante. Même si elle est utile dans le quotidien, et même indispensable quand on veut explorer la réalité, puisque c'est ce dont il s'agit, alors il faut laisser tomber tous les préjugés, tous les cadres de référence qu'on veut rajouter pour voir qu'est-ce qu'il y a vraiment. Donc je vous ai demandé dans l'assise si la salle de méditation elle était perçue par vous alors que vous avez les yeux fermés et le corps dans le fond. On inscrirait l'assise dans l'image du corps dans une salle de méditation alors que finalement c'est que de l'imaginaire puisqu'on a les yeux fermés. Mais même si on avait les yeux ouverts, je ne vois pas mon corps à ce moment-là où j'ai une certaine vision. Pour justement questionner un petit peu ceci dans ce qu'on construit dans le vécu. Et que cette construction qui empêche, dans le fond, de faire cette expérience de l'impermanence. En tout cas, du fait que les choses ne durent pas, qu'il n'y a pas de durée. Dans toute expérience, nous explique la psychologie bouddhique, mais ça ne serait pas très différent de la psychologie occidentale. Il y a dans tout vécu, si vous voulez, il y a un objet, il y a un instant où ce vécu surgit. Ceci dépend d'un organe sensoriel et d'une conscience correspondante, c'est-à-dire évidemment ce qui dépend des yeux, du fait qu'ils fonctionnent, qu'ils sont ouverts, mais c'est la conscience visuelle. Il y a des images, des formes, des couleurs, parce qu'il y a de la lumière. Et tout ceci donc surgit au même instant. Il y a une conscience visuelle ou un vécu visuel, parce que surgit au même instant cet objet. Si je vois passer un oiseau, mais il y a cet oiseau qui est là, qui peut être perçu. Il y a l'organe qui fonctionne à ce moment-là. Il y a la conscience visuelle aussi à ce moment-là. Et tout ceci est co-occurrent, ça surgit au même moment. Peux pas voir l'oiseau quand il a. T'as vu l'oiseau? Ah non, je ne l'ai pas vu, ben, c'est fini. S'il n'est plus là, je ne peux pas le voir. Donc on comprend qu'à chaque instant, il y a ceci qui doit surgir au même instant. Pas trop compliqué. Mais lorsqu'on vient vers la salle de méditation, si on pense dans le fond qu'elle est déjà perçue avant qu'on entre, vous voyez, on lui donne une existence avant qu'on entre. Donc je viens dans la salle de méditation, j'ai déjà une représentation. Donc constamment, j'ai inscrit toutes mes perceptions dans un monde qui est stable, dans un sujet qui est stable. Donc je ne suis plus du tout à ce niveau de ce qui se passe dans l'instant, puisque j'ai inscrit, donc voilà, je vais sortir un peu, me promener dans la vallée, ben, voilà, elle est stable, c'est comme si elle existait du matin jusqu'au soir, je vais me promener dedans, moi aussi je suis un sujet qui dure, et puis voilà, je vais essayer maintenant d'être dans les vécus. Mais j'ai complètement tout figé. Un environnement, un décor qui est complètement stable, et je vais maintenant essayer d'être dans chaque vécu d'instant en instant. Vous voyez, ça ne joue pas? J'inscris tout dans une sorte de stabilité, et maintenant je vais pratiquer Vipassana juste dans l'instant. Alors que dans le fond, il y a le monde où cette vallée-là, ce matin, elle n'existe plus. La vallée de ce matin n'existe plus. Un peu étonnant, mais elle n'existe plus. Toutes les cellules, les molécules, etc., ont changé, etc. Elle existe à cet instant-là, maintenant. Dans ma manière d'être là, à cet instant, on se rend compte dans cette co-occurrence à chaque instant. Non pas dans quelque chose qui serait stable et solide, mais à chaque instant, il y a ce vécu qui surgit. Si je m'attache à vouloir tout stabiliser, à ce moment-là, je suis dans ces généralités, j'ai de la peine à être juste dans le vécu à chaque instant. Et ceci est ce qui, dans le fond, empêche de faire cette expérience de l'impermanence directement, où tout d'un coup, je suis dans ce vécu qui n'a pas de durée, où il n'y a pas cette confusion croyant que les choses existent dans la durée, dans une existence autre que simplement leur représentation. Donc je mets des mots ici sur certaines choses, mais lorsqu'on est bien dans le processus méditatif, ceci est une évidence. On n'a pas besoin d'essayer d'éliminer tout ce dont je vous ai parlé. Cette vallée, elle n'existe pas, elle n'existait pas ce matin, elle n'existera pas demain, il n'y a pas besoin de ceci. On reste bien plus simplement dans cette perception. Les yeux grands ouverts, là, avec la montagne, dans cette perception immédiate. On reste dans ce vécu à chaque instant. Néanmoins, il est intéressant parfois de se rendre compte comment on s'attache à quelque chose qui fait que quelquefois la méditation est figée parce que on fige ce monde par cette représentation qui nous empêche finalement d'être en intimité avec lui. Je vous cite ici un sutra. Un sutra, certainement parmi les plus anciens, partie du Sutta Nipata. J'ai traduit de l'anglais un peu rapidement, parce que c'est un style assez poétique, comme il avait dans les plus anciens sutras. Voilà ce que nous dit l'enseignement du Bouddha parmi les plus anciens. Il dit le renonçant, on pourrait dire le méditant, la méditante ne s'enferme pas dans les mots, les idées, les règles et les systèmes. Il ne construit pas de théorie sur la base de la connaissance ou de la moralité. Il ne se prétend pas égal aux autres, ni inférieur, ni supérieur. Il abandonne ses positions sans en adopter d'autres. Il ne se définit pas par ce qu'il connaît, il ne s'attache à aucun groupe de dissidents, il n'adopte aucun point de vue. Donc on est bien là dans cet enseignement, parmi certainement les plus anciens, dans cette sensibilité, où il ne s'agit pas de faire des théories. Vous voyez, c'est pas un scientifique qui parlerait comme ça. On n'a pas de point de vue, on n'a pas d'idée, on n'a pas de théorie. Ils ne feraient pas long feu comme scientifiques, on leur demande autre chose. Par contre, dans cette exploration de la dimension existentielle de la nature humaine, alors ceci, tout d'un coup, ouvre la porte à quelque chose. J'ai dit hier soir que si on pouvait imaginer une liberté inconditionnée, illimitée, il faut bien imaginer que ça suppose une perception du monde un peu différente, parce qu'on ne peut pas être dans ce monde stable, solide, comme on le perçoit, et puis rajouter quelques gouttes de liberté là-dessus. Ça ne joue pas. Il y a bien quelque chose qui doit être radicalement mis en jeu, questionné, pour que tout d'un coup on puisse être dans un rapport au monde qui soit un rapport de totale liberté. Et il est là, le sutra nous le mentionne bien, clairement. De rester dans ce vécu, dans sa plus grande simplicité, dans sa plus grande profondeur. On verra encore les autres aspects, donc la caractéristique de l'absence de moi, comment on va essayer de lui donner du sens. Et qui tout d'un coup ouvre la porte à cette liberté que nous sommes. Ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait aller chercher en Inde ou, je ne sais pas, à Lumbini ou à Sarnath. C'est quelque chose qui est notre propre nature. Elle est là constamment lorsque on se dépouille de toutes ces constructions auxquelles on s'attache, qui sont comme des échafaudages, c'est-à-dire nécessaires. C'est indispensable, cette vérité conventionnelle, les représentations, c'est indispensable. Le problème, c'est qu'on lui donne un statut de réalité au-delà de ce qu'elle a. Si on le reconnaît comme représentation, comme moyen de fonctionner autre, il n'y a pas le moindre problème. Mais tout d'un coup, on le prend pour quelque chose de solide, et alors on s'enferme. La prison dans laquelle nous sommes enfermés, qu'on appelle le samsara, c'est la prison qui est imaginaire, qui fait que nous prenons notre imagination pour la réalité, et tout d'un coup, on se cogne contre les barreaux imaginaires, on n'arrive plus à sortir. Toute la pensée du bouddhisme est là, c'est que les barreaux de notre prison sont imaginaires. On n'a pas à briser quelque chose pour atteindre notre liberté. On n'a même pas besoin de ne plus imaginer ces barreaux, on a simplement besoin de réaliser qu'ils sont imaginaires. Pas besoin de laisser tomber tout ce monde des représentations. C'est extrêmement important. Mais le mettre à sa juste place.